Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, vous écoutez Sans détour, l'édition du 7 juin 21. Ouf, qu'il fait chaud, comme on dit chez nous, ça va en être une tannante. Bien, quand même, il fait chaud, mais il fait beau. Alors, on va parler aujourd'hui d'art, de vision sur l'art Québec, avec Mme Marie-France Marcille. On va sortir un peu, puis aller se promener dans la nature. On va parler du camp Sainte-Pat's, dans la région des Cantons de l'Est, avec M. Jean Fabi. Et pour terminer, parce qu'il faut bien rentrer chez soi, bien, on va parler de chez soi, on va parler d'habitation et des problèmes, des challenges pour l'habitation pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel et tout ça avec Mme Pascale Dussault, directrice générale du RAM. Ça s'en vient à Sans détour. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Marie-France Marcille, qui est directrice générale de Vision sur l'art Québec. Et ensemble, on va parler des défis pour faire reconnaître les artistes qui sont en situation de handicap. Bonjour Mme Marcille, comment allez-vous?
Bonjour François, ça va très bien vous-même?
Ça va, je vous remercie. D'abord, qu'est-ce que c'est Vision sur l'art Québec? Et il y a Québec à la fin parce qu'il existe un organisme international auquel vous vous accrochez.
Oui, alors, première des choses, je suis pas la directrice générale, on n'a pas les budgets pour avoir une directrice générale.
Désolée.
Je ne suis que la présidente du conseil d'administration.
Quoi qu'il en soit.
Depuis un bon nombre d'années. Alors, Québec, alors, en fait, il y a VS et Vision sur l'art Québec, souvent on dit VSAQ, puis c'est vrai qu'il y a un organisme international qui a son siège social aux États-Unis, qui s'appelle VSC Arts. Alors ça, c'est Very Special Arts.
Mm-hmm.
Mais par hasard, on a le même acronyme.
Même
là.
Mm-hmm.
Oui, c'est ça. Mais en fait, nous, on est des affiliés, des membres affiliés à cet organisme-là. Là, il y a eu des changements dernièrement dans les structures. Je pense qu'il ne faudrait plus dire affiliés, il faudrait dire un autre nom. Et donc, cet organisme-là reconnaît des organismes à travers le monde qui mm-hmm. font la promotion des artistes en situation de handicap.
Et c'est ce que Vision sur l'art Québec fait.
Oui.
Vous a donné à avoir les mêmes initiales, mais oui. votre organisme...
C'est pas le même nom. Non, c'est Vision au pluriel.
C'est ça.
Parce qu'il y a plusieurs visions sur l'art. Ça a été fondé en 1993
mm-hmm.
Par une dame qui s'appelle Liliane Potet, aujourd'hui décédée, qui a œuvré dans le milieu de la déficience physique, la réadaptation en fait,
mm-hmm.
et qui, elle, bien qu'elle n'était pas artiste, a vu que l'art avait des effets, que des personnes qui, suite à des fois une déchéance physique, mm-hmm. ils ne peuvent plus retrouver un travail, d'autres choses, se mettaient à découvrir leur potentiel artistique et
d'accord.
tout ça, et elle s'est dit bon, il y a quelque chose à faire et tout, et on a été subventionné à l'époque, reconnu, subventionné par l'Office des personnes handicapées du Québec.
Mm-hmm.
On avait un petit budget de 26 633 $ qui a été maintenu un certain nombre d'années. Et puis après ça, il y a eu des changements gouvernementaux qui ont dit l'OPHQ ne va pas subventionner davantage mm-hmm. ces organismes. On va les référer au ministère dont ils devraient relever.
D'accord.
Donc, un organisme comme Kéroul, qui est bien connu pour tout ce qui est le tourisme mm-hmm. adapté et tout ça, a été pris en charge par le ministère du Loisir et se porte très bien. Nous, on devait être pris en charge par le ministère de la Culture,
oui,
ça
me semble logique, là, que c'est Kéroul, c'est le tourisme,
logique,
que vous soyez la culture.
Mais pour les fonctionnaires, ça se peut pas des artistes handicapés, puis même si ça existait, les préjugés et l'exclusion n'existent plus dans notre société.
Ah non?
Ni plus ni moins. Oui, oui, c'est aussi simple que ça.
Ben, je suis heureux de l'apprendre, parce que c'est la meilleure nouvelle de la journée. Je vous remercie.
Ben, en fait, moi, j'aurais jamais osé même penser le huitième de ça, ayant passé une quarantaine d'années mm-hmm. en réadaptation en déficience physique. physique. J'ai fait toute ma carrière. J'ai accompagné des gens qui ont eu toutes sortes de diagnostics. Et je suis tombée des nues, mais c'est comme ça que vous voulez.
Alors, que fait Vision sur l'art?
Alors, malheureusement, Vision sur l'art, c'est le seul organisme provincial qui chapeaute vraiment l'ensemble des artistes en situation de handicap dans mm-hmm. l'ensemble des disciplines artistiques.
Alors, ça peut être la peinture, la sculpture, la musique, les arts de la scène.
Exactement. Alors, le mandat est très, très large, mais il y a des membres collectifs aussi de Vision sur l'art qui sont, entre autres, il y en a un à Québec qui fait la promotion des œuvres d'art, que les artistes qui ont une maladie mentale puissent prendre leur place dans le milieu culturel. Et puis, ils étaient en lien avec l'Institut de la maladie mentale là à Québec et tout ça. Fait que ce groupe-là est plus local et est plus mm-hmm. Autour d'une déficience en particulier.
Il y a différents
membres comme ça collectifs. Là.
Parce qu'à l'intérieur de Vision sur l'art Québec, il y a plusieurs façons d'exprimer l'art. On parlait de peinture, de sculpture, oui. de musique, de poésie, mais en même temps, il y a plusieurs types de situations d'handicap aussi
exactement,
parmi les gens qui
exactement.
Sont sous votre ombrelle.
Voilà, tout à fait. Et tout ça est très compris dans l'ensemble, je dirais, de beaucoup de gouvernements. Malheureusement, quand on regarde la politique d'inclusion pour les artistes en situation de handicap au Québec, quand on se compare, on se désole, mm-hmm. vraiment. Il y a plus de 30 ans déjà en Angleterre, tout ça là est très clair dans tous les paliers de pouvoir politique. Ici au Québec, on donne deux fois plus par tête de pipe en culture que les autres provinces du Canada. Par contre, le Canada anglais est très en avance sur par rapport au Québec, mais pas par rapport à l'Angleterre, mettons, mais par rapport au Québec, est vraiment en avance sur l'inclusion des artistes en situation de handicap. Et d'ailleurs, au Canada, on peut citer le Conseil des arts du Canada, mm-hmm. qui a un bureau d'équité qui, depuis une dizaine d'années, s'est vraiment penché sur la question des artistes en situation de handicap, tout ça dans un but d'équité. On consultait Vision sur l'art pour, justement, en français, comment on définit les choses. Le mot handicap du côté anglophone est très, très, très mal perçu. Ça n'a pas la même résonance. Alors, il y a du travail et on a une de nos membres à Vision sur l'art de culture sourde, Véronique Leduc, qui est dans l'exposition actuelle là, qu'on mmh. fait à l'Afro-Musée, qui a travaillé là, avec le Conseil des arts encore pour améliorer là, la connaissance et les besoins et les situations dans lesquelles mmh. on doit s'adapter socialement.
Comment l'action de Vision sur l'art se présente-t-elle? Vous parlez d'une exposition à l'Afro-Musée qui a cours en ce moment, mais
là,
ce n'est pas que d'organiser ça.
Dire, vous êtes inutile. Le ministère de la Culture ne veut rien savoir de vous, à peu près. Là. Je résume. Là, hein. J'ai beaucoup de respect là, pour tous les gens qui travaillent là, mais grosso modo, c'est ça. Alors, moi, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai donné beaucoup d'heures. J'ai fait quelques miracles avec le 26 633 $ qui a gravité via le secrétariat de l'action communautaire là, qui était donné par le ministère de la mm-hmm. Culture mais qui arrivait par ailleurs. Alors j'ai dit, moi, je peux pas faire plus là. Mais ils ont dit, non, on veut pas fermer. Et effectivement, la structure de Vision sur l'art telle qu'elle existe avec le conseil d'administration permet de gérer des subventions pour des groupes mm-hmm. et des artistes. Mmh. Alors, on a continué ça. Et là, maintenant, c'est plus les artistes par eux-mêmes, pour eux-mêmes, entre eux-mêmes, mmh. qui font des projets parce qu'on n'a pas de personnel, on n'a pas de budget de fonctionnement.
Parce qu'il faut faire la distinction qu'une personne est une ou un artiste et que cette personne-là adonne à avoir une situation
voilà,
d'handicap
et non pas
que le faire de la gouache, c'est bon pour le moral
voilà,
et que ça
voilà,
va ça
voilà.
va les tenir occupés. Et dans ce sens-là, oui. il faut comme sortir la situation oui. d'handicap d'un créneau médical.
Ah, ben là, c'est sûr. Moi, en 40 ans, de 35 ans de carrière en réadaptation, on a une vision beaucoup plus médicalisante de la déficience qu'à l'époque. Je fais une parenthèse, on a fondé une association pour les parents en situation de handicap. Les fonctionnaires du ministère de la Famille ne veulent pas nous entendre, ne veulent pas nous écouter, ne veulent pas s'intéresser à nous parce que le mot « handicap ». Mm-hmm. Alors, on admet qu'il y a des parents qui ont des enfants handicapés, mais l'inverse ne peut pas exister dans notre société. Alors, ça aussi, il faut essayer d'exister. Et le dernier mémoire qu'on avait présenté au ministère de la Culture, c'était « Oui, exister d'abord ». Il faudrait admettre que ça se peut qu'il y a des artistes qui sont en situation de handicap et qui sont pleinement artistes. Et si vous venez à l'exposition qui est à l'Afro-Musée, vous allez les voir. Et en plus, on a mis sur vidéo cette exposition-là. Ça va sortir dans 2 semaines. Là. Et vous allez pouvoir le constater.
C'est où l'Afro-Musée, si on veut visiter?
C'est sur la rue Sherbrooke, Ontario. Au coin de, à l'angle de Berry et Ontario, 355, je pense, que c'est Ontario.
C'est tout près d'ici, là. Enfin, je vous parle, je parle des studios de Canal M. Mais cela dit, est-ce que c'est, en fait, de désigner une exposition comme regroupant des artistes qui vivent en situation d'handicap, est-ce que c'est pas là déjà un regard validiste? En fait, on devrait faire une exposition, puis ça adonne qu'à l'intérieur de l'exposition, il y a des œuvres qui viennent de personnes qui sont dans des situations d'handicap, mais ça, c'est vraiment secondaire, puis on s'en aperçoit juste quand on est sur place.
C'est-à-dire que là, non. Là, quand même, parce qu'on l'a quand même initié dans la semaine des personnes handicapées. Et on a eu un budget de l'Office des personnes handicapées du Québec pour réaliser le projet. C'est là qu'on a, on a pu avoir des fonds. Et donc, mais c'est une œuvre collective. Chacun de ces artistes-là pourrait probablement faire une exposition individuelle. Mais il y a un sentiment d'appartenance dans l'association, de soutien. Alors, il était content de participer à ce projet qui est une initiative d'une artiste en l'art littéraire. Mais qui voulait pouvoir permettre aux membres de vivre un projet. Et il y a aussi une partie scène là, dans ce projet-là. Et donc, effectivement, l'avantage et pourquoi ça se fait à l'Afro-Musée, d'abord, eux, ils ont une ouverture à l'inclusion aussi, mais c'est parce qu'ils ont travaillé très fort pour rendre les lieux accessibles.
Ah, bravo!
Et ce n'est pas simple de trouver des lieux accessibles. Même des locaux, ne serait-ce que pour avoir un bureau, si on avait un bureau, il faut que tout soit accessible. Il faut toujours penser en termes d'accessibilité. D'abord pour la mobilité réduite, mais après ça aussi, ça nous a pris des traducteurs en langue des signes. Alors, il y a des enjeux qui sont reliés à la déficience, qui sont très peu connus, qu'on ne veut pas regarder. Ça gêne, surtout quand on parle d'art, on veut parler de performance. Et là, ça fait très peur de dire, voyons, pas pour inclure des artistes qui ont des situations d'handicap et tout ça. Et certainement, la plus grande difficulté sont ceux qui ont des limitations au niveau du langage.
Parce que c'est difficile pour eux d'aller se représenter eux-mêmes, puis d'aller voir une galerie, par exemple. Et de passer dans le dédale.
On a eu un AVC, puis que notre langage est atteint, on peut être très bon artiste, on peut avoir énormément de talent, mais c'est fini. Demandez-moi pas de lire un formulaire, de le compléter, de composer un texte.
Alors, ça c'est ce pont-là entre l'artiste qui souhaite exprimer son âme par son talent et la dure réalité du monde,
du système,
du système de l'exposition ou de l'accommodement
et autre chose. Reconnaissance, il faut être reconnu.
Ça, c'est le pont
moment,
que...
le message, c'est ça n'existe pas. Et puis, si ça existe, qui se débrouille?
D'accord.
Les diplômes, mais on va dire qui ont un diplôme. D'accord. On ne veut plus donner de budget de financement. On ne dit pas on rejette les artistes qui ont une situation d'handicap.
On leur fait la vie dure, tout simplement.
Absolument. Et puis, bon, donc, une personne qui est déficiente intellectuelle, qui peut-être un talent inouï en quelque chose. Pas parce qu'elle est déficiente intellectuelle, parce qu'elle a cette âme d'artiste, comme vous dites. Mm-hmm. Elle ne pourra jamais avoir un diplôme universitaire mm-hmm. en beaux-arts.
C'est sûr. Ben, Madame Marcel, je vous remercie.
Dites-moi pas, on a déjà terminé.
Eh oui, déjà. Alors, il va falloir se reprendre. C'est la seule solution. Alors, Madame Marcel, je vous remercie beaucoup. Vous êtes la présidente du conseil d'administration de Vision sur l'art Québec. Merci.
Voilà, merci, au revoir. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer. In the city, cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city.
Ah, ça sent le goudron, on sent la chaleur qui passe au travers de nos semelles de souliers, on sent l'écrasante humidité d'un été urbain. Voilà, mais cette chanson est un incontournable pour le genre de météo qui s'en vient. Bonjour, M. Jean Fabi, vous êtes gentil d'avoir pris le temps d'être avec nous ce midi, parce que vous êtes une personne assez occupée, mais vous êtes aussi un philanthrope, et c'est pour ça que vous donnez un peu de votre temps, mais je vous remercie, M. Fabi, d'être là. Ça va bien?
Ça me fait grand plaisir, M. Beauregard. Oui, ça va bien, et vous aussi, j'espère.
Oui, tout à fait. On va parler du camp Sainte-Pat, qui est dans les cantons de l'Est, dans la région de Stoke. C'est un camp qui a un long historique pour amener, à la nature des personnes qui vivent en milieu défavorisé ou qui ont des situations d'handicap. Et dans les dernières années, ce camp-là, c'est un peu retrouvé en s'associant à la Fondation Papillon et au camp Papillon qui existe déjà ailleurs au Québec. Et là, est en train de réinventer un peu sa mission. Parlez-nous-en.
Bien, vous avez raison. Le camp Sainte-Pat existe depuis 1948. Mm-hmm. C'est les anciens de l'Académie Sainte-Pat dont la mère d'un des étudiants avait parti le camp. Mm-hmm. Et ils étaient au service d'enfants défavorisés. Mais vous savez, aujourd'hui, tu sais, toi, tu es défavorisé, l'autre, il n'est pas, c'est ici, c'est ça. C'est très difficile de
trancher.
Ouais. Ben oui. D'ailleurs, on n'est pas là pour ça. Et le camp, comme les old boys avaient tous un âge avancé, était en perte, si vous voulez, de dynamisme. Alors, ils cherchaient une façon de le rendre pérenne. Et moi, je travaillais... j'assistais à la Fondation Papillon, mm-hmm. et eux me disaient, Écoute, ça serait bon, on est en existence depuis 80-90 ans, ça serait bon qu'on rayonne en province, mais évidemment, on n'a pas d'argent, il faut hériter des camps, ben, ça donne bien, il y a un camp qui a besoin d'hériter.
Oui, voilà.
Vous en avez besoin. Alors, j'ai réuni les deux présidents et ils ont décidé de céder le camp à la Fondation Papillon, qui a initialement payé toutes les dettes qui existaient, parce que quand tu as une opération et qu'il y a des dettes et qu'il n'y a pas de revenus, ben là, évidemment...
Ça s'accumule, et puis il faut que l'acquéreur l'éponge, ça, c'est sûr, et il fallait avoir les reins solides.
Exactement. Alors là, on l'a pris, le président de Fondation Papillon, Jean Duchesneau, m'avait dit... Écoute, bien beau de prendre ça, là, mais nous, aller dans le canton de l'Est, c'est problématique, c'est loin pour nous, etc. Alors, si tu formes une équipe, vous pourriez le gérer à distance avec nous. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a pris quelques anciens de Sainte-Pat, Jerry Grenier, Michel Prenovo, etc., Serge Grenier. Et on a commencé par nettoyer la place. Vous savez, ça avait besoin de beaucoup d'amour. C'est un site magnifique.
C'est tout près du Mont Orford, je pense, à Stoke.
Ben, en fait, non, c'est tout près de Bromptonville.
Oh, Brompton, merci.
OK, oui, le lac Stoke. Mm-hmm. On est sur la rive du lac Stoke et on a 200 acres. Mm-hmm. C'est magnifique, là. C'est boisé, c'est de toute beauté. Alors, on a cherché, après avoir fait le ménage, on a tout rasé des bâtisses qui existaient, qui étaient complètement désuètes. On a fait du ménage, on a fait des corvées, etc. Et là, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce camp-là? Bon, on ne veut pas faire juste un autre camp, parce qu'il y en a déjà énormément de camps, et les besoins sociaux ont changé. Mm-hmm. Autrefois, les parents aimaient bien aller donner une belle vacance à leurs enfants pour deux semaines, puis pour eux, ben, c'est un répit.
Oui, aussi.
Je pense, par exemple, aux parents ou aux proches aidants de personnes qui vivent avec un handicap. Donc, ça a changé, ça. Les gens, aujourd'hui, veulent plutôt des camps de jour. Mm-hmm. On cherchait et on dit, des 15 jours, il y en a. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent?
Oui, parce qu'il y a une question de transport aussi pour un camp de jour à aller jusqu'au site du camp.
Exactement. Alors là, on a cherché, on a fait des recherches. On a formé un comité de gens de Sherbrooke parce qu'on veut vraiment régionaliser l'opération. Alors, on a recruté l'ancien maire de Sherbrooke, Jean Perrault, qui est un grand sportif, puis il est encore aujourd'hui. On a Donald Royer, qui est en charge des sports de l'Université de Sherbrooke.
Monsieur Quinn aussi, je pense.
Tom Quinn, qui est l'ancien président des Jeux du Canada. On a également Jean Laroche, qui est l'entraîneur de Diane Roy, qui est multimédaillé en para-athlétisme. Oui. Diane a accepté d'être notre porte-parole. Alors là, j'ai dit, écoutez, voici une feuille de papier blanche. Qu'est-ce qu'on va faire avec le camp? Alors, on a demandé conseil à Comité paralympique Canada à Ottawa, également Parasport Québec, et on s'est rendu compte que 94% des personnes qui vivent avec un handicap ne font aucun exercice physique.
C'est vrai, c'est vrai.
Bon. Alors, tu sais, vous et moi, on connaît des gens qu'on dit ils sont sédentaires. Mais oui, ils ont beau être sédentaires, mais ils se lèvent le matin, ils vont faire le déjeuner, ils vont laver l'auto, ils vont faire l'épicerie, ils font la pelouse, ils font quelque chose.
C'est certain que c'est une des plaies dans la vie des personnes qui vivent en situation d'handicap, c'est l'isolement, puis le manque d'activité, puis le manque de stimulation pour sortir de chez soi.
Exactement. Alors là, à force d'échanger des idées avec le comité, on dit, OK, si nous, on veut motiver ces gens-là et leur donner un épanouissement dans leur vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un, on peut les initier au parasport.
Oui.
Il y a énormément de sports. Écoutez, il y a même du volleyball, du para-volleyball.
Oui. Monsieur Fabi, je peux vous dire que j'en connais, étant moi-même un athlète de parasport, j'en connais pas mal de ce côté-là. Ouais. Et je pense que le public est toujours surpris d'apprendre que, ah oui, ça aussi, ça existe. Ben oui, ça aussi, ça existe.
Exactement. Et il y a beaucoup d'organismes qui offrent des services, mais c'est isolé. Mm-hmm. C'est un ici, un là. Alors, on a pensé que nous, on peut offrir certains sports et on peut travailler en collaboration avec les autres organismes qui vont ajouter des sports. Je pense à à sport adapté, Steve Carbonneau,
oui.
Qui fait un gros travail. Et Steve dit, oui, je vais vous aider. Alors, notre idée, c'est on veut devenir un centre vraiment mm-hmm. spécialisé pour l'activité parasport, là,
mm-hmm. les athlètes parasport. Alors, vous allez doter le camp Sainte-Pat d'équipements qui sont à la hauteur.
C'est ce qu'on est en train de faire. Alors là, la première étape, c'était de définir notre mission très précisément. On est également en train de préparer un plan d'affaires avec un professeur de l'Université de Sherbrooke, Carl Lucier, qui est par hasard est résident de Stoke et qui fait un excellent travail. On fait un sondage auprès de la population, c'est-à-dire des gens qui vivent avec un handicap ou encore des proches aidants ou des intervenants. Et ce qu'on leur dit, c'est écoute, on veut faire des week-ends familiales mm-hmm. où les proches aidants vont venir avec une personne avec un handicap ou tout simplement la personne vient. Et là, on va avoir une espèce de foire et il va y avoir 5, 6, 7, 8, 10 sports différents mm-hmm. qui sont là. Essaye ça.
Oui, c'est ça. Il n'y a rien comme commencer pour l'adopter, mais tout
exactement.
À fait.
Exactement. Et tu sais, vous et moi, on a été privilégiés dans la vie. On a essayé, à partir d'un jeune âge, la bicyclette, mm-hmm. La natation, le ski de fond,
le hockey, tout.
You name it, on a tout essayé. J'ai même essayé le golf. Ça fait 50 ans, j'essaye le golf.
Tous les golfeurs essayent le golf encore, oui.
Exactement. Alors, mais on a eu le privilège, un, d'être exposé, de pouvoir le pratiquer et de choisir. Mm-hmm. Eux n'ont pas eu ce privilège-là. On veut leur donner oui. cette chance de vraiment essayer différents sports. Ils vont dire, non, j'aime pas ça. Après 5 minutes, j'ai pas aimé ça.
Ouais, à un moment donné, la lumière s'allume dans le fond des yeux, puis le sourire arrive, on a le sourire aux lèvres, puis on sait qu'on est bien dans cette activité-là. C'est quoi votre... Vous avez une date cible pour accueillir vos premières familles, vos premiers athlètes ou sportifs en devenir?
D'abord, appelons-le des athlètes, ils vont mm-hmm. mériter. Puis comme on dit, comme on a dit à tout le monde, quand ils vont venir chez nous, ils ne retourneront pas à la maison et disent bon, je suis le fond.
Non, ils vont l'avoir adopté. Mais à quel moment c'est votre date cible, qu'est-ce que c'est?
Bon, la première décision, on devra la prendre cet été. Mm-hmm. Si on va d'avant avec toutes les infrastructures qu'on a besoin, on a besoin d'un pavillon de parasport, on a besoin d'une piste mm-hmm. pour le vélo à main, etc. La nage en eau libre, c'est pas un problème.
Aussi, il y a le lac, bon. C'est sûr. Mais vous savez, M. Fabi, je dois vous dire quelque chose. Il va falloir que vous reveniez à notre micro pour nous parler de ça, parce que malheureusement, j'entends dans le fond de mon casque d'écoute la musique qui m'appelle. Alors, il va falloir qu'on arrête. Mais M. Fabi, on se fait un rendez-vous puis on s'en reparle cet été, parce qu'il faut lever des fonds aussi pour ça.
Exactement.
OK, à bientôt.
Merci.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Bientôt, ce sera le 1er juillet. Et le 1er juillet, on le sait, c'est souvent synonyme de déménagement. Mais quand on déménage, encore faut-il avoir un endroit où aller. J'ai avec moi Mme Pascale Dussault, qui est directrice générale du RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Bonjour Mme Dussault, comment allez-vous?
Je vais très bien, merci vous-même.
Ça va bien, merci. Oui, 1er juillet, il faut trouver un endroit à aller. Et le logement est une problématique sérieuse pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel. Et vous avez fait récemment une étude là-dessus, puis ça va être dévoilé pas plus tard que demain.
Pas plus tard que demain, il y a un webinaire qui s'appelle « Le mal-logement des personnes ayant un handicap visuel à mm-hmm. Montréal ». Oui, on dit que la crise du logement, si c'est compliqué pour les gens qui n'ont pas de handicap, c'est un problème à long terme pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel.
Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un scoop de qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette recherche? Des choses que l'on sait, on sait que ça va pas bien. Alors ça, c'est pas un scoop. Mais est-ce qu'il y a des...
Non, on sait que ça va pas bien, mais faut faire une précision quand même que quand Laurent a demandé des fonds pour effectuer cette recherche-là, pour faire le portrait de l'habitation des personnes handicapées visuelles, on n'était pas vraiment en crise du logement à Montréal. Maintenant, actuellement, on sait qu'on est en crise du logement à Montréal. Il manque de logements, que les prix ne sont plus abordables et on est encore plus inquiet pour les personnes qu'on représente. Quand on sait que 66 % des personnes qu'on représente vivent seules et sous le seuil de la pauvreté, et que plus de 62 % attribuent plus de 30 % pour payer leur logement.
De son revenu, oui.
On peut comprendre qu'il ne reste pas grand-chose à la fin du mois.
On a, une fois qu'on a payé le premier du mois, rendu le 2 ou le 3, là, les 27 prochains jours vont être longs.
Oui, oui, exact. Oui, absolument.
Est-ce que...
Dans notre recherche, ce qu'on voulait aussi, c'est de voir si les gens avaient des logements ou des lieux de résidence qui répondaient à leurs besoins en accessibilité, par exemple.
D'accord.
Et ça aussi, on sait que malheureusement, non. Pourquoi? Ben, parce que c'est trop dispendieux, justement.
Et ça demande souvent, oui, des choses simples, mais qui est parfois difficile d'obtenir de la personne... qui gère ou qui possède l'édifice où on habite. Mais il y a des problèmes d'insalubrité aussi que vous avez constatés. Ça, c'est encore plus grave parce que là, il y a personne qui veut vivre là-dedans.
Il n'y a personne qui veut vivre là-dedans, mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que souvent, les personnes, parce qu'elles sont aveugles ou malvoyantes, ne savent pas qu'il y a des problèmes de moisissure.
Oui, mais ils ne peuvent pas constater l'état de délabrement des lieux jusqu'à ce que le pied passe au travers du plancher, là, parfois, ou qu'un morceau de plafond nous tombe sur le crâne. Vous avez eu on vous a donné le mandat de faire cette étude. C'est parce qu'il y a un désir de solution?
On espère avoir cette solution. C'est sûr que nous, on va se servir de ces résultats pour nos revendications futures. Ne serait-ce que d'essayer d'avoir plus de logements sociaux. On travaille beaucoup aussi avec le regroupement des aveugles et handicapés du Québec pour augmenter un peu et avoir un revenu plus décent pour les personnes qu'on représente. Et ne serait-ce que faire reconnaître aussi que l'accessibilité pour une personne aveugle, c'est souvent aussi être à proximité des commerces et des moyens de transport.
Oui.
Mais plus on s'approche des moyens de transport et des commerces, bien plus les appartements ou les lieux de résidence sont plus dispendieux.
Oui, c'est sûr, il y a une prime au fait de vivre à 5 minutes de marche, par exemple, d'une station de métro ou d'un terminus d'autobus qui va nous permettre de se déplacer. Il y a des efforts qui sont faits, par exemple, à la Fondation des aveugles du Québec, où il y a des logements de type sociaux qui sont construits grâce à des programmes qui existent, mais la demande totale de logements pour les personnes en situation de handicap est beaucoup plus grande que ça.
Oui, absolument.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la Fondation des aveugles du Québec, elle seule n'arrivera pas à régler le problème malgré toute sa bonne volonté. Ça doit venir d'une volonté politique. Est-ce que vous avez un dialogue avec des instances ou vous avez l'impression que vous parlez un peu dans le désert?
on parle un peu dans le désert, comme tout le monde parle dans le désert lorsqu'on fait des revendications. Et c'est pour ça qu'il faut faire des projets de recherche pour être capable d'étayer ce qu'on dit. Ça fait longtemps qu'on sait que les personnes handicapées visuelles vivent sous le seuil de la pauvreté et sont isolées et qu'ils devraient avoir plus de logements sociaux plus accessibles à leurs besoins. Mais là, avec ces chiffres qu'on va dévoiler demain, ça devrait nous aider, du moins pour travailler avec les offices municipales aussi. La Fondation des aveugles a des logements, mais vous avez raison, ils ne répondront pas à tous les besoins.
Exact.
Et ce n'est pas, j'imagine que ce n'est pas qu'à Montréal. Là, notre étude reflète Montréal. Je suis à peu près certaine que dans d'autres régions du Québec, c'est le même problème.
Oui, parce que à la grandeur du RAC, qui couvre le reste, toute la province, il doit y avoir des situations tout à fait similaires, surtout dans les centres urbains, comme Québec ou ailleurs. Il y a des endroits où il y a des méthodes, où il y a des choses qui ont été mises sur pied pour aider les gens à trouver un logement par des logiciels d'appariement entre les logements disponibles et les besoins des personnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous entrevoyez comme étant une possibilité pour rendre au moins, trouver plus facilement ce qui existe au moins pour ne pas chercher, je dirais, de midi à 14 heures?
on veut commencer à regarder ça, mm-hmm. mais il faut faire attention parce qu'il faut qu'on se rende compte à un autre problème dans ce cas-ci avec les logiciels, c'est l'accessibilité de ces logiciels.
Oui, tout à fait.
Actuellement, ce mm-hmm. n'est pas très accessible. Alors, il faut vraiment faire des démarches pour travailler avec des entreprises ou des organismes qui travaillent plus dans le domaine du logement pour essayer de mettre en place des projets, des partenariats ou des choses.
Parce que pour revenir à la question de l'insalubrité qu'on a soulignée tout à l'heure, là, il s'agit tout de même de faire une défense directe des droits de la personne à titre de locataire ou d'occupant ou occupante des lieux. Est-ce que c'est quelque chose où est-ce qu'on peut donner un coup de main à ces personnes-là? Parce qu'il y a des recours à faire, il faut communiquer avec le propriétaire, il faut appeler les services de la ville pour qu'ils constatent l'état des lieux.
Oui. En fait, le projet au départ, c'est ce qu'il prévoyait.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, on faisait des visites à domicile et c'est vraiment ce qu'on voulait faire, puis accompagner les gens dans leur démarche.
Mm-hmm.
Parce qu'on l'a constaté malgré le peu de visites qu'on a réussi à faire parce que la pandémie est arrivée. On l'a constaté assez rapidement qu'on a quand même plusieurs personnes qui vivent vraiment dans des logements insalubres.
Mm-hmm.
Et qu'on a voulu aider parce qu'on avait remarqué aussi des non seulement des moisissures, mais des problèmes d'insectes, de vermine. Mm-hmm. Malheureusement, les gens ont peur. Les gens ne veulent pas interpeller leur propriétaire parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes avec le propriétaire.
Mm-hmm.
Fait que c'est triste, là, parce que s'ils ne nous autorisent pas, on ne peut pas le faire avec eux, là.
D'accord. Parce que...
Et on a ça, ce problème-là, qui ont peur du propriétaire. Ils ont peur de déménager aussi et de ne pas trouver autre chose qui va répondre à leurs besoins ou qui vont être capables de le payer. Fait que ça devrait être vraiment des situations difficiles.
Mm-hmm. Et parce que d'abord, il s'agit de communiquer avec les autorités municipales là, qui vont émettre des avis sur l'état des lieux, ainsi de suite. Mais je comprends la crainte de personnes vulnérables qui s'accrochent à ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont, bien que ce soit vraiment pas satisfaisant, parce qu'ils se disent « si j'ai pas ça, j'ai rien ». Alors,
c'est ça qui est la racine de la peur. On a vu un logement où la dame, là, il y avait vraiment de la vermine, là, puis mm-hmm. c'est même pas bon pour sa santé, puis elle n'a jamais voulu qu'on interpelle le propriétaire. Là.
D'accord.
Ni l'office municipal, ni mm-hmm. les autorités de la ville... De peur, justement, de peur.
Oui, de peur.
J'avais une autre dame là, qui, son chauffage ne marchait pas à moitié.
Mm-hmm.
Donc, elle se mettait des petites chaufferettes électriques là, dans deux, trois endroits. Ben, ça, c'est dangereux, ça.
Oui, tout à fait.
C'est dangereux pour le feu et c'est dangereux pour elle aussi.
Exact.
Alors,
ces situations-là sont c'est des drames, mais et on peut penser que ça, c'est quelques visites que vous avez faites. Mais il y a beaucoup d'autres endroits que vous n'avez pas visités. Ou peut-être bien des situations semblables ont cours. Pour ce qui est de l'adaptation, on parlait d'adapter le logement aux besoins de la personne qui a un handicap visuel. Ça va prendre quelle forme, cette adaptation-là? Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui sont assez simples et pas si coûteuses?
Oui, en fait, on va parler plus de, pas seulement dans le logement, mais l'environnement.
Mm-hmm, d'accord.
Par exemple, qu'il y ait des rampes pour les escaliers,
mm-hmm.
Qu'il y ait des comment on appelle ça, donc pas des tuiles avertissantes, là, mais des bandeaux avertissants
mm-hmm.
Qui indiquent qu'on est rendu à la dernière marche,
exact.
Un bon éclairage, être capable de se rendre pour aller jeter ses déchets dans le
conteneur,
grand conteneur. Souvent, c'est l'autre bord d'un stationnement où tu ne peux pas prendre
mm-hmm.
pour une personne qui ne voit pas souvent là.
D'accord.
C'est plus de ce type-là, tu sais, s'assurer qu'il n'y a rien qui est dangereux dans l'espace commun, des choses comme ça.
Parce que ce n'est pas nécessairement des adaptations qui sont très coûteuses, ça, pour le propriétaire.
Non. C'est
pas on parle pas de défoncer un mur puis de faire poser ceci ou cela qui est hors de l'ordinaire, parce que c'est une adaptation qui est pertinente pas seulement pour une personne qui a un handicap visuel, mais ça peut être une adaptation qui est tout à fait souhaitable pour quelqu'un qui a des challenges de mobilité, par exemple. Alors, c'est pas uniquement...
Les personnes qui sont plus âgées.
Plus âgées, tout à fait. Et de ce côté-là, donc, il semble y avoir... est-ce que c'est encore une fois une question de crainte de s'adresser aux propriétaires pour demander des choses comme celle-là? Parce que sinon, ça va résulter en des accidents.
Pour les gens qui habitent les immeubles, oui, actuellement, c'est carrément ça. Les gens ne veulent pas qu'on interpelle leurs propriétaires.
OK.
Alors ce qui va faire travailler beaucoup plus avec l'Office municipal de l'habitation.
Mm-hmm. D'accord. Et est-ce que est-ce que l'étude que vous avez faite, qui l'a commandée? Cet argent-là vient d'où?
Ça vient de la Direction régionale de la santé publique du Centre-Sud de Montréal.
D'accord.
Qui vient on appelle ça la mesure 17, qui est la mesure favorable à la santé.
D'accord.
Alors, eux font des appels de projets chaque année pour des choses qui favorisent la santé.
D'accord. Alors, donc, on peut penser qu'avec votre étude à la main, il pourrait avoir l'autorité de demander ou d'influer sur une volonté politique, là. Ils vous ont pas demandé ça pour le mettre dans le tiroir, tout de même.
Non, j'espère bien.
Oui, voilà.
Mais de toute façon, si eux le mettent dans le tiroir, on va lui rappeler que ça existe.
Oui, vous le savez que ça existe, ces conclusions-là. Alors, ça va être révélé ou ça va être... vous allez publier les résultats de l'étude qui s'est quand même déroulée sur une période de quoi? Un an et demi, à peu près?
C'est peut-être que ça, à cause de la pandémie, on a pris un petit peu de retard. Mm-hmm. Là.
Mais vous aviez démarré
En novembre 2018.
Oh là là, OK. Alors, ça fait déjà pas mal.
Oui, on avait démarré en novembre 2018. Ben, le temps de faire, de préparer la grille, de mettre les outils en place pour faire comptabiliser nos données, tout ça. Et on est arrivé dans la pandémie. Il a fallu changer un petit peu notre fusil d'épaule. Donc, c'est ça. On arrive en mars 2021 quand on l'a fini.
Et c'est un échantillon qui regroupe combien de personnes?
Une centaine de personnes.
Une centaine de personnes qui habitent toutes dans la région de Montréal. Oui, c'est ça.
Oui.
Donc, c'est assez significatif. Et cette étude, cette recherche-là va être dévoilée par un webinaire qui va avoir lieu demain.
Oui, demain midi, un webinaire.
OK, ça, c'est demain.
Et par la suite, oui, allez.
Comment je m'excuse d'avoir interrompu. Comment quelqu'un peut demain midi, est-ce que moi je peux aller me brancher ou quelqu'un peut aller se brancher puis voir le dévoilement des résultats ou apprendre qu'est-ce que cette étude a à dire? Est-ce que je peux, est-ce que nos auditeurs peuvent communiquer avec vous, trouver une adresse?
Absolument. L'adresse est sur notre site Internet. On a publié d'ailleurs... encore aujourd'hui, ce matin, l'invitation pour les gens à se brancher. Si les gens ne peuvent pas se brancher demain parce qu'ils sont occupés ou peu importe, tout de suite après le webinaire, les résultats de l'étude vont être publiés sur notre site ainsi que l'enregistrement du webinaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que demain, il y a deux autres interlocuteurs qui vont être au webinaire, c'est-à-dire l'organisme qui s'appelle Exequo.
Oui.
Qui vont nous parler du logement accessible.
D'accord.
Et d'une politique en accessibilité universelle pour le logement. Et la Fondation des aveugles du Québec qui va nous parler de ses différents immeubles et tout ça, de son programme d'habitation.
Formidable. Alors ça va, on l'espère, être un coup d'envoi, un dialogue et des amorces de solutions. Bien, Madame Dussault, je vous remercie beaucoup. On va se brancher demain midi. On va écouter tout ça. Et il ne faut pas que ce soit uniquement des gens qui savent qu'il y a un problème, qui l'écoutent, mais que ce soit aussi des gens qui peuvent aider avec la résolution du problème. Ben, je vous remercie beaucoup.
Oui.
À bientôt.
Avec plaisir. Bonne journée.
Bonjour, Mme Campagna. Avez-vous chaud?
Ben là, ici,
c'est
on
pas
est
si
chanceux.
Voilà. Bon, bien, tout cela nous amène tout de même à votre revue de presse. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ça a été une grosse semaine là, pour les personnes en situation de handicap.
Ben oui, parce que bon, la convergence de deux choses, c'est que la Semaine québécoise des personnes handicapées fait en sorte que les organismes souvent se réservent des annonces pour cette semaine-là. Justement parce que les médias qui suivent ce genre de calendrier-là...
De plus près.
Voilà. Il y aura nécessairement plus d'articles sur la santé mentale, la semaine de la santé mentale, et il y aura nécessairement plus d'articles sur le handicap. Donc, ces deux choses-là font qu'il y a eu beaucoup de choses. Mm-hmm. Notamment, la semaine dernière, je vous avais annoncé des conférences de presse, mais qui n'avaient pas encore eu lieu. Maintenant, il y a eu des développements, on en a pris davantage. Notamment celle du collectif de défense des droits des personnes en situation de handicap qui regroupe plusieurs organismes de défense des droits. Ils ont fait une conférence de presse, mais aussi écrit une lettre au ministre de la Santé, Christian Dubé, pour parler des impacts de la pandémie sur les personnes en situation de handicap, des impacts psychologiques, financiers sur les soins. Tout d'abord... on souligne que la COVID est donc venue mettre en lumière les failles du système de santé.
Oui, tout à fait. Et les a aussi élargies un peu.
Oui, tout à fait. Notamment, l'augmentation des salaires des préposés aux bénéficiaires en CHSLD à 26 $ de l'heure, bien, ça a créé d'énormes disparités salariales qui ont fait que les personnes qui avaient des soins à domicile perdaient leur personnel. Avec le chèque, bon, ça varie en fonction des régions, mais en gros, avec le chèque emploi-service, on obtient comme 15 $ de l'heure.
C'est ce qu'on appelle un effet pervers. En voulant faire du bien d'un côté, on fait du mal de l'autre.
Voilà, ce qui fait que pour réussir à avoir du personnel, et c'est une source d'angoisse si vous ne savez pas s'il y a quelqu'un qui va venir vous lever le matin ou vous coucher le soir, là. On estime que les personnes ont déboursé de leur poche pour compenser, pour attirer les gens, un montant moyen là, de 250 $ par semaine pour pallier la différence.
Mais c'est quand même presque 10 $ de l'heure, alors avec une vingtaine d'heures de prestations de service, on y arrive facilement.
Donc, quand en plus vous utilisez 1 083 $ de votre budget par mois pour payer les gens, ben ça vous met dans une situation économique précaire à un moment où les prix augmentaient aussi dans beaucoup de domaines. On pense à l'épicerie, par exemple, et au logement dont on vient de parler. Donc ça a été vraiment un des effets pervers. Et c'est ajouté à ça la difficulté de faire reconnaître le fait qu'il fallait que des personnes en situation de handicap soient dans les groupes priorisés.
Oui, pour le vaccin. Mais maintenant que tout le monde est vacciné, on en entend moins parler, mais je me souviens très bien qu'au mois d'avril, là, c'était plutôt angoissant.
Bien, on s'est rendu jusqu'à une mise en demeure.
Oui, exact.
Le 17 avril dernier, le groupe déplore qu'aucun organisme voué à la défense des droits des personnes handicapées n'ait été invité à faire part de ses recommandations sur le sujet. D'ailleurs, les personnes, on l'avait noté l'année dernière à Canalem, au début de la pandémie, en conférence de presse, c'est un groupe qui est presque jamais mentionné, comme si on prenait pour acquis que lorsqu'on parle des aînés.
Ça inclut les personnes en situation de handicap aussi? Ah ben.
Qui vivent souvent des situations tout à fait différentes.
C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout, mais c'est comme un grand sac dans lequel on essaie de mettre tout le monde, puis c'est plus facile, parce qu'une fois que le sac est fermé, ben là, voilà, on n'en parle plus.
J'avais aussi parlé de la semaine dernière d'une conférence de presse à Laval
le transport.
On allait offrir le transport adapté gratuit aux femmes vivant avec un handicap et on se posait des questions. Et suite à ça, j'ai des réponses à certaines.
Oui, parce que le transport adapté soit gratuit pour des femmes avec un handicap qui vivent une situation de violence conjugale ou ça peut être parental, c'est dans leur milieu. C'est important qu'il y ait une réponse rapide. Si on a besoin de sortir de la maison, c'est comme maintenant.
Donc, on dit que le déplacement peut avoir lieu le jour même avec un délai minimum de 2 heures.
OK.
Ce qui est quand même, par rapport au délai pour réserver un transport adapté habituellement, c'est une grande différence.
Oui.
Les accompagnateurs qui vont répondre à ces appels-là seront formés pour répondre à une clientèle vivant avec une limitation fonctionnelle et seront sensibilisés à l'enjeu aussi de la violence conjugale.
Oui, parce que là aussi, il peut y avoir une problématique au moment d'essayer d'ouvrir la porte.
Exactement. Donc, un financement qui est venu du secrétariat à la condition féminine.
D'accord.
C'est un projet de 2 ans. On va voir, on espère que ça va se poursuivre par la suite. Mais il faut rappeler que les femmes vivant avec un handicap sont sous-représentées dans les maisons d'hébergement alors qu'on estime que 39% d'entre elles sont à risque de subir de la violence conjugale, selon les données de Statistique Canada.
Elles sont encore plus mal prises et plus coincées encore. Il y a encore moins de facilité pour elles de s'en déprendre.
Exactement. Je vais vous parler encore une fois d'une action du RAM. Ils sont très actifs.
Encore eux!
Ils se battent sur tous les fronts, peut-on dire. Et avec la pandémie, est apparu beaucoup des enjeux pour les activités de loisirs, c'est aussi le cas des musées, qui demandent de réserver les places.
Oui.
Ça a été notamment en 2020 un problème qui s'est posé dans le cas des installations aquatiques du parc Jean Drapeau. Alors, le RAM a fait des suivis auprès des équipes du parc et des ajustements qui ont été faits là, pour la période estivale qui s'en vient. Donc, vu que le système de réservation en ligne n'est pas accessible aux utilisateurs de lecteurs d'écran, il est maintenant possible de faire une réservation par téléphone en contactant donc le 514-872-7368. Et que même si la capacité maximale du site est atteinte, elle va être officiellement atteinte, mais des places seront réservées pour les personnes ayant une déficience visuelle qui n'ont pas de réservation.
Parce qu'on peut s'imaginer que des journées de plage, ben ça va être des journées un peu comme aujourd'hui où il fait très beau et très chaud. Alors, ça va venir, sans faire de mauvais jeu de mots, ça va venir par vagues.
Oui, tout à fait. Il y aura aussi un stationnement réservé donc pour les personnes ayant leur vignette à la plage Jean Doré.
Parfait.
Puis, le RAM dit, si vous rencontrez encore des difficultés de ce genre-là, de communiquer avec eux.
Oui, parce que souvent, il y a de la bonne volonté au début, puis après ça, bien, ça se laisse aller.
à Canalem cette semaine. Mm-hmm. Tout d'abord, jeudi, à l'émission du matin d'Hélène Denis au quotidien à 10h15, on va parler à un organisme de l'Estrie qui a fait un sondage auprès de ses membres de différents organismes pour savoir s'ils étaient satisfaits des services reçus pendant la pandémie. Mm-hmm. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais on va...
Surprise!
Surprise, hein? Donc, on va parler avec la directrice de tous ces détails-là. Et puis, vendredi, notre amie Camille accueille Aube Savard, qui vient de lancer une nouvelle émission dont elle est l'idéatrice et l'animatrice à Ma TV, donc grand public.
Okay.
Une émission qui parle d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Ça s'appelle « Accessible ou non » et c'est présenté le dimanche soir, mais vous pouvez l'écouter sur le site web si vous n'avez pas le câble. J'ai écouté le premier épisode, c'est une très bonne émission. Ah. Donc, elle sera avec Camille, elle était avec, on l'a aussi pu l'entendre à Canal M la semaine dernière.
Oui, je me souviens.
Et l'autre invité sera Marco Pilotto, qui est de Charlevoix. Mm-hmm. Donc, c'est un sportif, un amoureux de la planche à voile, mm-hmm. Qui était devenu tétraplégique suite à un accident de ski. Alors, on va avoir aussi une meilleure idée de son parcours et de comment il continue ses passions-là.
Ben, c'est formidable. Merci beaucoup, Christiane, notre recherchiste, exploratrice et éclaireuse officielle, et à M. Jean-Sébastien Laliberté, notre archiviste musical et DJ. À la semaine prochaine!